titré dans mon intervention aux années 1950-1970. Je suis devenu marionnettiste le 1er février 1948 pour le théâtre des marionnettes à la française de Gaston Bati, et c'était des spectacles en direction des adultes. Après différentes expériences dans les foires, dans les cabarets littéraires, à la télévision, en 1957, je me suis retrouvé chômeur, mis à la porte de la télévision, et je suis entré donc dans la création de spectacles en direction d'un public scolaire, c'est-à-dire travailler à l'intérieur des établissements scolaires jusqu'aux années 60-65, date à laquelle ce domaine scolaire s'est étendu pour le spectacle pour l'enfance et la jeunesse aux grandes structures qui venaient de se créer, maisons de la culture, centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux, etc. Les spectacles de marionnettes dans les établissements scolaires ont été, pendant cette période, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec les spectacles de cabaret, les sources d'un grand renouveau de l'art des marionnettes en France sur le plan artistique. Elle a eu ses limites, mais elle a été un vecteur prodigieux d'évolution de notre art. Et donc, ces spectacles, pour être joués dans les écoles, dépendaient d'un agrément d'une commission. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une commission au ministère de la Justice. Je ne crois pas que ce soit la même commission qui est jouée. Il me semble que cette commission était composée essentiellement de représentants de l'éducation nationale et éventuellement de la culture, mais je ne suis pas sûr de ça, puisque cette commission a existé avant la création du ministère de la Culture. Donc, cette commission a eu une importance, puisqu'elle a manifesté des exigences de qualité du répertoire, de qualité des réalisations artistiques. Dans cette mesure, disons qu'il y avait à l'époque, entre 1950 et 1970, une vingtaine de nos compagnies représentatives de cette ambition artistique et de cette évolution, entraînées par nos grands aînés qui avaient été Yves Joly et Georges Lafaille, quant au niveau artistique. Alors, du point de vue de nos représentations dans les écoles, il y avait donc ce passage devant les commissions qui était une appréciation forcément très subjective et qui était liée aussi au fait que la marionnette vivait d'une déconsidération considérable et que même pour ces membres de la commission, on était en quelque sorte même un art inférieur et à peine un art. Mais, par ailleurs, l'évolution dégradée de la marionnette à la fin du XIXe siècle avait fixé l'art des marionnettes comme un art pour l'enfance et même pour la petite enfance. Donc, à ce titre-là, plutôt qu'à titre artistique, on était considéré comme valable pour jouer devant les enfants des écoles. Quelle était la qualification de cette commission? Je ne peux tenir que l'expérience personnelle que j'ai vécue quand en 57 j'ai présenté mon spectacle devant la commission, c'est-à-dire une inspectrice de l'éducation nationale, une directrice d'école et une classe de filles de CM2. À l'époque, il n'y avait pas encore de parité à l'école, c'était encore des filles et des garçons. Le spectacle que je présentais était un spectacle fondé sur une adaptation de texte de Molière, Scapin, l'avare, le mariage forcé, et durait environ une petite heure. Voilà. Et à la fin du spectacle, l'inspectrice est venue, m'a serré la main et m'a dit « ça n'est pas vulgaire, c'est le principal ». Bon, ça en est. Ce que j'ai trouvé un peu juste comme en retour. Et ce qui me laisse rêveur sur les appréciations de cette commission. Je ne tiens compte que de mon expérience personnelle, il y a peut-être eu des expériences beaucoup plus positives pour certaines de mes frères. Donc, il y avait ce problème de la commission, enfin, on pouvait jouer dans les spectacles scolaires. Alors, à l'époque, avant la guerre, Marcel Temporal, un architecte, marguerite amateur, avait créé des ateliers de formation qui se sont adressés essentiellement aux enseignants, et en particulier aux jeunes institutrices et instituteurs, lesquels sont devenus, dans les années 50-60, directeurs des établissements scolaires en maternelle et en primaire. Et donc, il y avait de ce fait une écoute concernant les thèmes de Marielle qui, par ailleurs, représentait à l'époque quelques 98% des spectacles pour l'enfance et la jeunesse. Donc, nous sommes allés dans les écoles, et là, s'est posé le problème de notre orientation du point de vue du répertoire et de notre évolution quant à la réalisation esthétique. Je citerai encore, puisque nous en sommes à la censure, deux types de censure. On jouait à l'époque, dans les écoles maternelles et primaires, une adaptation de La Reine des Neiges, mais en respectant à la lettre le texte de l'auteur. C'était raccourci, on ne jouait pas tous les événements de La Reine des Neiges, mais en ce qui concerne la langue, on jouait la langue Andersen et pas autre chose. Et j'ai présenté un jour ce spectacle à une inspectrice des écoles maternelles, dans l'espoir d'être diffusée sur son secteur, et elle m'a dit « Écoutez, votre spectacle, bravo, mais ça n'est pas pour mes enfants. » Je lui ai dit « Écoutez, je vais vous proposer une chose, vous me faites jouer dans une de vos écoles, de votre choix, je joue, et si ça ne convient pas, je ne toucherai aucune recette, et voilà, on se quittera nos amis. » J'étais dans une de ces écoles, on a joué devant les enfants des classes de la maternelle. Et le spectacle a, comme d'habitude avec La Reine des Neiges, extrêmement bien fonctionné, même à l'égard des enfants des maternelles. Après la représentation, la maîtresse est repartie avec ses élèves dans ses classes. L'inspectrice s'est adressée à sa jeune directrice et a dit « N'est-ce pas, madame, que ça n'est pas du tout pour les enfants ?» À ce moment-là, la maîtresse est revenue après une demi-heure de travail sur le spectacle et a dit qu'elle n'avait jamais connu un rendu compte de spectacle aussi positif pour les enfants. Donc, il y avait cet aspect qu'on peut appeler quand même une certaine censure. Un autre spectacle beaucoup plus tard, c'était le grand-père fou qui était au fond un regard ironique sur l'agonie d'un vieillard. Et on m'a dit, c'est très bien, mais vous parlez de la mort, c'est pas pour notre public. Voilà. Donc je cite ces deux exemples qui peuvent être considérés quand même comme un certain aspect de censure. L'autre point, c'est une censure alors économique. D'abord, dans les écoles, les droits d'auteur n'étaient pas respectés, n'étaient pas reconnus. Donc les auteurs ne tenaient pas du tout à ce qu'on joue leur texte ou à écrire pour nos spectacles. Donc ça a développé toute une façon de faire des marionnettistes, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire adaptation de contes, de livres pour enfants, etc., du fait même des marionnettistes qui n'étaient pas du tout auteurs, en quelque sorte. Quelques exceptions, il y avait la Compagnie des Roches, où Jean Roche était un véritable auteur. Il y a eu la Compagnie des Doniacs, où Mathilde Doniac était un véritable auteur. Il y a eu ma propre compagnie, où Maryse Lebrus était un véritable auteur. Mais enfin, c'était extrêmement rare qu'il y ait des écritures spécifiques pour nos spectacles et donc pour le spectacle de marionnettes. L'avantage de ces spectacles, c'était, on en parlait tout à l'heure, que l'art des marionnettes est un art des signes, un art extrêmement symbolique, et donc à travers une représentation d'une dramaturgie par les marionnettes, on avait les moyens de faire passer toutes sortes de thèmes sans heurter objectivement le public. Un bel exemple de ça, j'ai monté l'Enfant d'éléphant de Pipi, vous savez tous cette histoire. L'Enfant d'éléphant pose des questions à ses oncles et tantes qui le cognent en toute réponse. Il en a assez, il part, voyage initiatique, et ce qu'il cherchait, sa grande question, c'était « Que mange le crocodile pour dîner ?» Et arrivé au bord du grand fleuve Limpopo, il voit un personnage qui était un crocodile et lui dit qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner? Le crocodile lui dit, viens, petit, approche. Il lui saisit le nez, il tire, et finalement, le nez de l'éléphant s'allonge et il prend une trompe. Il est désespéré. Et le serpent piton, bicolore de rocher, lui dit, mais ça va être formidable. Tu as envie de bananes? Et il cueille des bananes, etc. Et il s'aperçoit que la tempête est très, très utile. Et possiblement, il lui vient une idée. Il dit, ça va être formidable. Et il rentre au village. Et aux questions qu'il pose à ses oncles et tantes, les oncles et tantes comptent lui répondre, on le ressent, mais c'est lui qui, avec sa trompe grosse, ses oncles et tantes. Eh bien, j'ai eu de véritables scandales, non pas auprès du public pour enfants, mais auprès des adultes qui étaient scandalisés du fait qu'un enfant puisse cueillir un adulte. Donc, vous voyez, encore là, une mentalité d'adulte, non pas des enfants, mais une mentalité de censure. Donc, pas de possibilité de travailler avec les auteurs, pas de possibilité de jouer des textes d'auteurs. Ce n'est que dans les années 80, quand Villeneuve-Les Alignoux a mis en rapport des auteurs et des marionnettistes, puis une vraie collaboration et une vraie création de textes pour les compagnies de marionnettes a commencé à naître de la part des auteurs. L'autre point négatif résiste dans le fait que la reconnaissance officielle des spectacles dans les écoles n'a pas été suivie de la reconnaissance de ces spectacles comme une action culturelle de formation pour les publics des écoles. On nous a considéré au même titre que les photographes, c'est-à-dire comme une économie commerciale, marchande, alors que nos situations économiques étaient sans comparaison possible. Et de ce fait, on a été maintenu dans une économie de survie pour les compagnies, qui a limité les investissements dans la recherche, dans la création, auquel il faut ajouter la non-reconnaissance d'un statut social, malgré une légère évolution au début des années 60, et la quasi-impossibilité pour les compagnies de développer leur collaboration, autre que familiale, en respectant les lois sociales du travail et le développement des collaborations artistiques avec les autres disciplines du spectacle vivant. Donc, il s'agit là, de mon point de vue, d'une censure économique très forte, auquel s'ajoutait le fait qu'à partir des années 60, avec les autres disciplines du spectacle vivant, nous avions obtenu, car nous n'avions aucun statut social, pas d'organisation de sécurité sociale, pas d'allocation familiale, etc. À partir des années 60, on a eu droit à la vignette pour chaque intervention. On avait le droit de présenter une vignette qui était couverte par notre employeur occasionnel, et cette vignette nous permettait d'obtenir tous ces droits sociaux. Or, dans les écoles, le ministère de la Culture, l'Éducation nationale, a refusé de reconnaître au directeur d'école qui nous engageait, qui était, d'après les lois sociales, du droit social, nos employeurs, ont refusé que les directeurs d'école paient ces vignettes. Donc, à nos modestes recettes, s'ajoutait le fait que nous étions nous-mêmes obligés de payer ces vignettes pour avoir droit à l'obtention de droits sociaux. Donc, diminution des recettes, contraintes économiques supplémentaires et, de mon point de vue, censure économique forte. Donc, le paysage changera. Quand les spectacles de marionnettes investissent dans les structures de la décentralisation, maison de la culture et autres, où à ce moment-là, nos spectacles sont achetés à un prix commercial, encore que les spectacles de marionnettes sont considérés comme devant être moins coûteux qu'un spectacle d'acteur. Donc on a difficilement pu dépasser de 3 à 5 présents sur la scène, alors que les spectacles d'acteur bénéficiaient d'autres possibilités. Donc là aussi, une censure sur nos moyens pour élargir nos possibilités d'interprétation. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le sujet. Ça se limite encore, cette analyse, aux années 50-70. Merci à vous.